Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus sur le 106.6. Il est 14h passé de quelques minutes et vous écoutez Derrière la vitrine, l'émission intersyndicale des syndicats d'étudiants et de personnel de l'université Lille 1 et plus largement de l'université de Lille. Du coup, aujourd'hui, autour de la table, il y a
Benoît de la CGT,
Aurélien, solidaire étudiant,
et Tristan de Sud Solidaire étudiant. Du coup, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, donc un peu des budgets des universités lilloises, qui ne vont pas bien, et aussi de quelques trucs qui peuvent sembler pratico-pratiques, mais qui, pour nous, étudiants et même personnel de l'université, sont importants. Alors actuellement, il y a un projet de vouloir détruire l'espace vert qui est situé devant la maison des étudiants de Lille 1, donc, où il y a des arbres et une butte, etc., et de faire un passage qui relierait la maison des étudiants au Learning Center, un passage de 3 mètres de large, ce qui est un grand passage, et qui détruirait en fait cet espace vert, espace vert qui est en fait actuellement régulièrement inondé et sous forme de boue parce que c'est un terrain où se déverse, où se concentrent les eaux de pluie. Ce qui est problématique. Néanmoins, c'est un espace qui, en été, est pas mal utilisé par les étudiants, par les personnels, pour tout simplement s'installer devant la MDE, mettre des tables, des chaises, faire des jeux, etc. Et du coup, il y a une pétition qui circule, alors qui peut être signée au bar de la MDE ou sur Internet, je crois.
Oui, sur Internet.
Sur Internet, qui est soutenue par les syndicats de Lille 1, pas mal d'associations d'étudiants, et qui est notamment à l'initiative de la MUL, qui est l'association des amis de l'université Lille 1 qui gère le bar de la MDE. Cette pétition demande à ce que le projet soit abandonné et qu'on réfléchisse plutôt notamment à drainer en fait ce terrain pour faire en sorte que ne s'y concentrent plus les eaux de pluie et que ce soit un terrain qui soit vraiment praticable et utilisable tout le temps en période de beau temps par les étudiants et personnel.
Oui, donc c'est important quand même de protéger cet endroit. C'est un lieu de rencontre. On vit ensemble sur le campus, on profite de ces lieux. Le béton, ça risque d'être moins sympa pour se rencontrer. Aujourd'hui, on souhaite avoir un endroit agréable, un endroit où on soit pas les pieds dans la flotte la moitié de l'année et pas du béton partout. L'esplanade du Learning Center, c'est chouette, mais elle peut s'arrêter. Elle peut s'arrêter 5 mètres plus loin, peut-être.
Ouais. Et tout ça aussi pour dire qu'il y a une réduction quand même un peu des espaces verts sur le campus, notamment à ce niveau-là, avec justement la création de l'esplanade du Learning Center. Et du coup, ça permet de conserver cet espace au niveau de la maison des étudiants, et c'est aussi de l'espace culture, en fait, parce que c'est juste à côté. Donc c'est un peu notre...
D'accord. Et comme leitmotiv un peu de l'émission, est-ce que vous avez des nouvelles de la MDE, des locaux de la MDE ?
Alors, il y a eu quelques nouvelles intéressantes. On a été entendu sur plusieurs points, notamment sur les toilettes. Donc les rénovations ont commencé, etc. Notamment dans les toilettes des filles, où, pour rappel, il n'y avait plus de cloison entre les toilettes. Donc voilà, ça a commencé. Il y a aussi une renégociation de la convention avec la société de ménage pour qu'ils passent non plus une, mais deux fois par jour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y avait eu, comme on l'avait précisé la dernière fois, il y a un afflux énorme de personnes à la MDE le soir. Donc ça, c'était ancien pour les soirées, etc. Mais maintenant, le midi, avec la cafétéria Crous, il y avait déjà beaucoup de monde le midi avant, mais là, il y en a encore plus de monde. On fait vraiment des heures de queue le midi. Il y a beaucoup de gens qui mangent dans la MDE. Et avoir un deuxième passage de la société de ménage, ça permet de régler ce genre de problème, notamment de régler le problème de nettoyage entre midi et soirée. Donc ça, c'est un truc qui a été obtenu au dernier conseil permanent, qui a été annoncé au dernier conseil permanent, qui a eu lieu début décembre. Mais néanmoins, il y a toujours un problème de budget un peu insuffisant. Parce que l'objectif c'est de réparer des tables et des chaises, d'acheter des tables et des chaises parce qu'on est en manque. Et là, on se retrouve avec des personnels de la MDE qui sont de bonne volonté, mais qui sont obligés de réparer eux-mêmes les tables et les chaises avec des petites perceuses, des trucs comme ça. C'est pas, c'est du bricolage. C'est pas comme ça qu'on aura un espace de vie étudiante vraiment de très bonne qualité. Puis c'est pas forcément le travail des personnels de l'AMDE en fait de le faire. Donc du coup, il y a ça. Il y a enfin le système des télés qui a été installé. Il y avait des télés qui devaient annoncer les événements, etc. Donc ça, ça a été enfin mis en place. Mmh. Ça coûte un peu cher, mais voilà. Ça avait été demandé par des assos, etc. Donc voilà, ça commence à s'améliorer. On sent que le réveil un peu des associations et des usagers commence à payer, mais ce n'est qu'un début.
Mais oui, on peut se féliciter quand même que les usagers de ce lieu soient écoutés aussi.
Ouais.
Et je ne sais pas si c'était une demande qui datait un peu, mais ça a l'air de se mettre en place et,
voilà.
Et c'est plutôt chouette ça. Voilà. On écoute Debout sur le Zinc.
Okay.
Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais on va écouter Les Déserteurs.
De retour sur Radio Campus 106.6, c'est Derrière la vitrine, l'émission intersyndicale des syndicats d'étudiants et de personnel de l'ILIN. Et du coup, là, on va parler du budget des universités. Alors, pour recontextualiser un peu, on est en décembre, et en décembre, c'est la période où les universités votent leur budget pour l'année prochaine, pour l'année 2016. Le budget, c'est pas exactement ce qui va être fait, mais c'est ce qui est prévu, en tout cas, c'est le budget prévisionnel. Donc d'abord j'ai quelques mots sur l'ILIN. Alors sur l'ILIN, il y a une pétition qui avait été signée par les quatre organisations personnelles, donc FSU, CGT, CFDT et SNPTES, donc contre le gel d'emploi qui est prévu par le budget. Donc je vous lis le texte. 37 emplois vacants, donc 17 de BIATS, donc personnel non enseignant, et 20 d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants ne seront pas publiés cette année. Donc publiés, ça veut dire qu'ils ne sont pas mis au concours. Voilà. L'université gèle ainsi davantage d'emplois que le nombre total des créations liées à la loi Furazo, liée à la ministre Furazo, donc, dont elle a bénéficié depuis 3 ans. Alors que les effectifs étudiants sont en hausse et que l'activité de l'établissement n'est pas en réduction, on demandera donc plus d'efforts à moins de personnel. Après les mesures de restriction budgétaire consécutives à un déficit de 2,8 millions d'euros l'an dernier, en 2014, les personnels ont déjà subi la dégradation de leurs conditions de travail. En outre, le recours à des personnels contractuels perdure, certes sous contrôle de l'impact budgétaire de ces recours à contractuels, mais surtout à condition de contrats dégradés, notamment des temps partiels imposés lors des reconductions visant à priver ces personnels de toute titularisation dans le cadre du prolongement du dispositif Sauvadet. Donc, pour préciser, en fait, quand on est personnel contractuel et qu'on cumule 6 années, je crois, à temps plein, on peut être titularisé sous certaines
c'est
conditions.
Quand on est contractuel et qu'on a été contractuel pendant beaucoup, beaucoup trop longtemps, de toute façon.
Et donc, la fin de la pétition. Nous, personnel de l'île 1, refusons de payer par une nouvelle intensification du travail la carence de l'État. Nous demandons à l'État d'assurer dès 2016 la revalorisation des crédits de masse salariale permettant la mise au concours dès 2016 de l'ensemble des emplois de titulaires vacants sur l'île 1. Donc voilà, ça c'est la pétition qui a été signée par les 4 organisations syndicales de personnel et par plus de 830 personnels de l'université Lille 1 et qui a été remise aux représentants du recteur lors du conseil d'administration qui s'est tenu le 11 décembre dernier, la semaine dernière, où a été voté le budget avec bien sûr les 6 voix contre des syndicats qui sont d'ailleurs les syndicats qui font cette émission, donc CGT, FSU, Sud Étudiant et UNEF. Donc voilà, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter, Benoît.
Là-dessus, pas vraiment, mais c'est effectivement, voilà, c'est bien que c'est très heureux que les personnels prennent en compte et soient informés de ce qui se passe au niveau budgétaire. C'est important. C'est important pour les conditions de travail. Parce que voilà, c'est du travail qui devra de toute façon être fait. Donc on va se retrouver à travailler plus, de manière plus intense. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et c'est important aussi pour les étudiants. Parce que on a fait une rentrée suffisamment compliquée sur l'île 1 avec des classes, des cours suffisamment pleins, chargés, 3 sur un ordinateur pour faire un TD d'informatique. Voilà, on a vécu tout ça cette année et on nous dit vous inquiétez pas, l'année prochaine ce sera pire. Donc on peut pas vraiment accepter ça, quoi. Voilà. Et une autre petite remarque sur le budget.
Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire sur le fait que ça va avoir un impact sur les effectifs et puis derrière aussi sur les services de l'université, sur que ce soit les services des inscriptions, etc. Et la rentrée 2016 risque d'être encore plus douloureuse que la 2015.
Voilà.
Mais on nous promet que tout va bien. Tout va bien.
D'accord. Il y avait une chose dont je voulais parler aussi, c'était la création de la faculté des sciences. Donc, sur l'université, la présidence de l'université a décidé que de regrouper des UFR. Dans ce qui y est écrit dans le document qu'ils sont en train de faire passer à l'ensemble des personnels dans des AG avec le président qui se déplace partout pour essayer de faire passer ça, que c'est une faculté qui va se créer, mais le terme n'est pas définitif, il est indiqué. Très bien. Voilà, ce qu'ils veulent pas, c'est que on utilise le mot faculté en pensant derrière à l'île 2, parce que effectivement, ce regroupement d'UFR, donc là, on parle de mathématiques, de physique, de chimie, de
IEA.
IEEA, il me semble.
Donc c'est informatique électronique
et automatique.
Et automatisme.
Il manque peut-être un E quelque part.
Il manque un E, mais je sais plus.
Oui. Mais en fait, voilà, il faut être clair. Ils disent, ça a toujours été dans notre programme de réduire le nombre du FR. Mais à ce niveau-là, c'est assez important. Ça montre bien comment va se dérouler la fusion des universités. C'est-à-dire que, encore une fois, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle ici et qu'on le dit, encore une fois, c'est l'île 2 qui décide. Ça va se faire à la mode de l'île 2, avec la structure de l'île 2. Et comme, et voilà, c'est l'île 2 qui nous dicte et nous, on obéit.
Ah, c'est exactement ça, parce que leur objectif, c'est... Donc actuellement, si on réunit maintenant les trois universités, il y a plus de 30 composantes, donc 30 UFR, ou facultés, ou voilà. Et l'objectif, c'est de dire, on descend à 20. Il faut que ça devienne gérable, vous comprenez, etc. Ça, c'est eux qui veulent créer une université avec plus de 70 000 étudiants. Hein. C'est leur choix. Hein.
Oui, oui.
Donc il faut descendre à 20. Donc alors, l'île 3 avait fait ce travail, en fait, il y a quelques années. Par exemple, il y a un énorme UFR de langue à l'île 3 qui a fusionné plein de petits UFR. Avant, il y avait un UFR de langue germanique, de langue slaves et orientales, etc. Donc, c'était des petits UFR. Maintenant, il y a des gros, très gros UFR à l'île 3. Hein. Il y a même des UFR qui, il y a un UFR qui s'appelle Décide, qui regroupe à la fois la sociologie, les sciences de l'éducation, les sciences de l'information et de la documentation, et je sais plus ce qu'il regroupe d'autres, mais c'est des disciplines qui, a priori, n'ont rien à voir. Il y a un autre UFR qui s'appelle Humanité, avec un S, qui regroupe la philosophie, les lettres, le cinéma.
Je pense qu'on pourrait faire un concours de sigles. voilà, le ministère pourrait organiser un grand concours de sigles. Ici, on a le laboratoire géant Cristal à proposer. Voilà, il y a
entre toutes les fusions de toutes les universités, c'est sûr qu'il va y avoir des
sigles intéressants.
Des sigles et des trucs qui vont se créer et se monter. Donc pour regrouper, assez rigolo. Ouais.
Ouais.
Avec ça, on ne sait plus où on en était. Parfait, excusez-moi.
Non, mais. Et donc, tout ça pour dire que cette fusion des UFR, elle va se faire à Lille 1, entre les UFR de sciences. Sans doute, aussi, il va y avoir une fusion en bio et sciences de la Terre.
Oui.
Je pense qu'ils vont aussi faire des économies. Et la structure qu'ils prévoient, c'est vraiment une structure, entre guillemets, comme tu disais, à la mode Lille 2, en fait, où ces nouvelles facultés, parce qu'on dira même plus UFR, parce que
c'est tellement énorme.
Tellement énorme que, voilà, on va dire faculté. Puis faculté, ça renvoie un peu à l'ancien temps, hein, avant 68. À Lille 2, ça leur plaît beaucoup, avant 68. Donc faculté, ces facultés vont avoir vraiment beaucoup de pouvoir.
Effectivement.
Beaucoup d'autonomie aussi. Et c'est vraiment elles qui vont décider, parce que ce qui va se passer, c'est que maintenant, il y aura certes la présidence, mais il y aura très souvent, beaucoup plus souvent que les conseils d'administration ou que les autres conseils de l'université, ce qu'ils vont appeler des comités de direction élargis aux directeurs de composantes. Et ça va être vraiment le pouvoir aux directeurs de faculté. Et c'est vraiment donner le pouvoir aux directeurs de faculté. Et ça, on sait que c'est vraiment... du coup, ça va vraiment jouer... Les oppositions dans l'université vont plus être des oppositions politiques, mais des oppositions de filières, de formations, d'intérêts divergents entre diverses formations et diverses disciplines qu'on va institutionnaliser.
Mmh.
Et ça, c'est un vrai défi que nous, on aura relevé, parce que nous, on devra continuer à faire vivre... l'idée qu'il y a des désaccords politiques, et c'est pas parce que monsieur en face, il est pas de la même discipline que moi, que je peux pas être d'accord avec lui, que je peux pas être même sur la même liste que lui.
Oui. Et le danger des facultés, c'est de créer des petits rois aussi. Et on le voit à l'île 2, pour les personnels qui ont la chance, entre guillemets, de participer à des groupes techniques sur la fusion des universités, ils se rendent compte, en fouillant un petit peu, qu'il y a des services dans certaines facultés de l'île 2 qui ne fusionneront pas, qui ne rentreront pas dans le pot commun des services, parce qu'il y a des petits rois, en l'occurrence, qui possèdent leurs services, qui à disposition, quand ils le veulent, sur un claquement de doigts. Voilà, c'est... Cette décentralisation est étrange quand même.
Voilà, donc c'est comme on l'a dit, hein, c'est une fusion qui se va, contrairement à ce que nous disent les présidents d'université, c'est pas une fusion qui va aller de soi, d'un claquement de doigts. Ça va pas être simple, ça ne coule pas de source. Hein. Et d'ailleurs, ils ont refusé aux dernières, je crois qu'il y avait une réunion des trois comités techniques.
Oui.
Et
oui,
trois CA aussi, peut-être.
Oui, dans la foulée encore.
Dans la foulée encore, où ils ont clairement refusé l'idée qui avait été émise par les syndicats. Je crois que c'était la CGT, oui, la FSU.
La FSU l'a proposé, la CGT a suivi.
A suivi d'un référendum sur ce processus de fusion. Ils ont clairement refusé. C'est clairement quelque chose qui leur fait peur.
Oui. Et ça fait peur aussi, disons-le clairement, à d'autres syndicats,
ouais,
qui ont dit très très clairement que le pouvoir, voilà, la décision, elle était aussi dans leurs mains par le biais du comité technique ou du CA, et donc ils ne voulaient pas sortir de là. Seulement, rappelons que le comité technique a un avis consultatif et que l'avis du comité technique, régulièrement, on s'assoit dessus.
Su en CA, voilà.
Voilà. Il y avait un troisième petit sujet à traiter.
On va parler de Lille 3.
Après le budget de Lille 1, le budget à Lille 3, parce que le 11 décembre, c'était le CA budgétaire. Et
à Lille 3 aussi.
À Lille 3 aussi. Et du coup, à Lille 1, l'après-midi, les personnels remettaient une pétition. Et à Lille 3, le matin, c'était les étudiants qui se rassemblaient devant le CA pour essayer d'empêcher le vote de ce budget, qui est encore un budget dans lequel il y a des baisses, ça va entre 4 et 8% en fonction des UFR dans une université où les conditions de travail pour les personnels et pour les étudiants aussi continuent de se dégrader avec des TD surchargés, des manques de matériel, etc. etc. Et du coup, c'est la totalité des syndicats étudiants, Sud Solidaire étudiant, l'UNEF et puis les organisations de jeunesse, l'UEC, le NPA, qui avait appelé à se rassembler devant CA vendredi dernier pour essayer d'empêcher ce vote. Alors ça a fonctionné partiellement, dans une toute petite mesure, puisqu'effectivement à 9h30 nous étions quelques-uns devant le CA à crier contre l'austérité et les baisses de budget, et au bout de quelques heures d'attente, nous avons réussi à envahir le CA et à les empêcher de voter le budget. Mais ça a pas duré très longtemps, puisqu'on a appris une heure plus tard qu'effectivement le budget n'avait pas été voté.
Avec le CA.
Mais que le CA serait reporté l'après-midi même au rectorat, où il serait du coup très difficile de faire entendre notre voix. Alors on a bien eu, pendant notre siège du CA, la présidente et le vice-président de Lille 3 qui sont venus nous expliquer qu'on faisait un petit peu trop de bruit et qu'il faudrait mieux qu'on fasse des remarques constructives et qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient dans un contexte difficile. Ils ont un peu tout essayé pour nous demander de rester tranquilles. Ils sont même allés jusqu'à faire une sorte de chantage au social, en nous expliquant que si on continuait à les empêcher de voter le budget, dans ces cas-là, ils ne voteraient pas non plus les mesures qui pouvaient être favorables au personnel. Ça, c'est un argument qui revient assez souvent à chaque fois que... À chaque fois que des étudiants râlent, qu'on essaye de monter dos à dos les personnels et les étudiants. Heureusement qu'on se laisse pas faire et qu'on se laisse pas avoir par les ficelles un peu trop grosses et qu'on arrive tout au contraire à essayer d'organiser une solidarité entre les deux.
Mais oui, on sent bien quand même que cette austérité à Lille 1 ou à Lille 3... c'est quand même pas sans rapport avec le dossier de l'IDEX. Et le fait qu'aujourd'hui, il faut surtout qu'on montre patte blanche avant que la décision soit prise, qu'on montre qu'on est des bons élèves, qu'on dépense pas trop, et avant que tout ça se décide et que ça se décante.
C'est lié. C'est de la même manière qu'il faut absolument montrer que la fusion des universités va avoir lieu
et va bien se passer
et que l'université de Lille va être une grande université rayonnante. C'est pour avoir toutes nos chances dans le projet IDEX. Au moment des baisses de dotation l'année dernière, quand Lille 2 a été amputée de ses 8,7 millions d'euros, le président de Lille 2 avait dit à demi-mot que de toute façon, il ne pourrait pas s'y opposer fermement, même si c'était une amputation forte sur son budget, parce que si jamais il râlait trop fort, bah, le ministère risquait de ne pas lui donner l'IDEX. Et du coup, non, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on baisse les dotations, on baisse les dépenses, on est dans des budgets d'austérité, et on peut absolument, enfin, les administrations veulent, les directions veulent pas râler, parce que si elles râlent, on leur explique que l'argent que potentiellement ils pourraient avoir un peu plus tard, ils l'auraient pas, et qu'il ferait mieux d'être plus sage et d'appliquer de manière plus rigoureuse les mesures d'austérité que les universités des villes voisines.
Et rappelons bien que l'IDEX rapportera rien au personnel, rapportera rien pour les formations, et l'IDEX partira sur des projets de recherche innovants.
Qui vont embaucher des contractuels.
Qui vont embaucher des contractuels. Et donc, c'est le moins-disant social à tous les niveaux, en fait.
Ah, mais clairement, clairement. Et. Non, mais. C'est...
Ouais, Tristan.
Non, mais clairement, cette situation, elle fait peur, dans le sens où on est prêt à tout sacrifier pour un truc qui n'améliorera jamais nos conditions de travail et nos conditions d'études, quoi.
Exactement. Et donc, j'allais vous proposer, en introduction de la suite, on anticipe un petit peu la suite, d'écouter Frédéric Fromet, et j'ai tout plein d'amis au MEDEF. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, promis.
J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion, c'est le B9. Pour faire du pognon, je vendrai père et mère. Le laisser aller du pauvre m'exaspère. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion, c'est le B9. Mon Dieu, c'est le patron qui vire, qui dégraisse, et qui impunément se tire avec la caisse. Je gère mon foyer comme une entreprise, ma femme est employée à l'Ajax et au Plise. L'autre jour, elle a voulu faire grève, la feignasse, on aurait dit une fonctionnaire. Agiter le chiffon rouge ainsi, c'est dégueulasse, c'est prendre en otage la poussière. Je lui ai dit, si tu gueules, je te délocalise. On verra si en Chine, tu joues les insoumises. Quand on a la chance d'avoir un boulot, on s'écrase. J'en connais tant qui voudraient ta place. Je t'en prie, ma chérie, ne me donne pas l'occasion de te lourder pour la chômeuse d'en face. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion, c'est le bénef. La bourse, c'est ma vie, j'ai une tronche de cac. Jean-Pierre Gaillard m'excite, c'est mon aphrodisiaque. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion, c'est le bénef. Au-dessus de mon pieu, je me suis fait un poster avec le Figaro et ses poches financières. Tu veux des RTT, tu veux des vacances, reprends ton balai, mets-le-toi où je pense. Le temps libre, c'est pour les poètes, les mollasses. L'homme s'épanouit dans le labeur. Me dis pas qu'avec ton aspiro, tu n'es pas joisse, qu'il ne suffit pas à ton bonheur. Tu veux toucher une prime, tu veux une augmente, t'auras pas un centime, pense aux dividendes de nos actionnaires qui ne sont pas tous philanthropes, eux qui jugent plutôt d'un bon œil. Les plans de licenciement pourvu que ça rapporte des pépettes dans leur portefeuille. J'ai tout plein d'amis au MEDEF, mon ennemi c'est l'ISF. Comme Florent Pagny, je m'en mets plein les fouilles. En pleurnichant maman, les impôts me dépouillent. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion, c'est le bénef. Je donne aux pièces jaunes, je ne suis pas un chacal. À un cul-de-jatte, j'ai même filé un vieux futal. Tes acquis sociaux, tes droits et ta retraite, à petits coups de karcher, je les fais disparaître. Il n'y a pas que toi qui saches faire le ménage. Si on me donnait rien qu'un lundi de Pentecôte, dans le code du travail, je pourrais faire un carnage pour que tu sois corvéable à merci. Madame se rebelle, madame fait sa fofolle, voilà qu'elle en appelle aux porteurs de banderoles. C'est pas tes syndicats qui vont me filer la frousse, pas trois bolcheviques à la Bastille. C'est pas ta chienlit qui va gouverner, allez oust, en cœur chante ton travail, patrie, famille, optez. J'ai tout plein d'amis au MEDEF, ma religion c'est le bénef. Le frère fric, le pèse, le flou, ça me fait le zizi tout dur. J'en ai jamais assez, j'aime trop la confiture. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion, c'est le bénef. Tout doit être profit, tout doit être rentable. Cette chanson est nulle, elle me rapportera que dalle. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion, c'est le bénef.
Eh bien, vous écoutez toujours Radio Campus, l'émission Derrière la vitrine au 106.6, l'émission des syndicats d'étudiants et de personnel. Et tout de suite, un petit mot sur la commu.
La commu, effectivement, il y a quelques semaines, on vous avait parlé des
élections.
Des élections de la commu. Je fais une belle introduction. Les élections de la commu, il y a quelques semaines. Et donc, cette semaine, la première, le premier CA de la commu, le conseil d'administration de la commu. Donc voilà, on était déjà circonspect sur le vote lors des élections, le fonctionnement, la légalité du vote. Enfin, on peut rappeler qu'il y a des assesseurs qui n'avaient pas pu rentrer, il y avait des syndicats qui n'avaient pas pu assister au dépouillement dans certains bureaux du boulevard Vauban, on va dire.
De la Cato, hein, pour être plus précis. Hein.
Et donc voilà, on a et donc le premier CA, déjà il fallait nommer. Deux personnes extérieures représentant le monde économique.
Le monde socio-économique. Il y avait socio dedans.
Oui, mais
ça a été oublié.
Ça a été oublié parce que le monde socio-économique, pour nos présidents d'université, aujourd'hui, c'est le patronat uniquement. Donc les syndicats ont demandé à ce qu'un représentant syndical soit aussi nommé. Et ça a été refusé sous prétexte que les syndicats étaient déjà représentés dans le conseil d'administration. Bon, voilà, donc le vote sur ces nominations a eu lieu. Et donc voilà, tout va bien. Je vous rassure pour nos présidents, puisque 30 voix pour, je crois. Enfin, bref, on voit bien qu'il n'y aura rien à faire dans ce comité, ce conseil d'administration, pardon. Il n'y aura rien à y faire. Tout est déjà plié. On croirait avoir affaire uniquement à des pantins qui vont voter. Pour tout, à chaque fois, comme leurs présidents l'ont demandé, étant donné qu'on était aussi en face parfois de listes qui étaient très dirigées par certains, par certains présidents. Voilà.
Ah, puis faut ajouter que ce conseil d'administration fait l'exploit d'avoir la moitié de membres qui ne sont pas élus mais nommés. Ce qui, du coup, renforce le poids des présidents d'université, parce que en partie, c'est. Donc, déjà, les parties des membres nommés, il y a eux-mêmes. Mm-hmm. Puis il y a des membres qu'ils peuvent nommer eux-mêmes et des représentants des collectivités territoriales qui sont souvent leurs amis. Puis il y a ces deux chefs d'entreprise, puisqu'ils ont tout plein d'amis au MEDEF, faire le lien avec la chanson précédente. Non, ça montre qu'on peut rien faire dans ces conseils. Au mieux, retirer des informations sur ce qui va se dire et passer une belle après-midi de langue de bois, à mon avis. Donc en effet, il y a eu des recours contre ces élections, recours qui ont été infructueux, en tout cas visiblement, parce que enfin, c'est. Et enfin, en tout cas, je sais que le nôtre a été infructueux.
D'accord.
On a reçu une belle réponse à notre recours, mais voilà, ça n'a pas marché.
Je sais que la FSU en avait déposé un aussi.
La FSU en avait déposé un qui était plus solide que le nôtre, parce que ils sont meilleurs que nous. mais voilà, donc. Donc voilà, donc ces élections qui ont été menées de manière complètement scandaleuse, des conseils qui visiblement ne vont pas servir à grand chose. Là, on a eu le conseil d'administration, on aura sûrement les autres commissions qui vont se réunir en janvier, espérons-le. Peut-être qu'on verra à quoi serviront ces commissions. Sans doute pas grand chose, sans doute à rien même.
Ouais.
Mais voilà. Donc la commu, communauté d'université d'établissement, on se dirige tout droit vers vraiment un truc technocratique, avec des conseils, comme on l'avait dit, qui sont une façade démocratique, hein, finalement, à tous les processus qui nous tombent dessus au niveau régional, hein, parce que la commu, c'est régional. Avec, j'avais un petit point sur le budget que j'avais pas fait, c'est sur le budget de l'île 2. L'île 2, ça a bougé un peu aussi, notamment en faculté de droit, sciences politiques. Il y a eu
des bonnes nouvelles, s'il te plaît, des bonnes nouvelles.
Ah non, il y a eu pour le coup, il y a eu une bonne nouvelle, c'est que il y a eu, c'est assez rare pour être souligné cette année, il y a eu une pétition à la fois des enseignants et chargés de TD pour exiger des moyens, notamment en termes de doublement et aussi en termes d'équipement technique des salles. Hein. Parce que Lille 2 a lancé un grand programme sur la pédagogie innovante. Sauf qu'en fait, à la faculté de droit, on a 8 vidéoprojecteurs pour tous les chargés de télé. Voilà. Donc, quand on met des millions pour la pédagogie innovante et qu'on n'est pas capable d'acheter des vidéoprojecteurs, ça commence à poser des problèmes. Et il y a eu aussi une pétition pas mal signée des étudiants aussi, à l'initiative des élus au conseil de faculté et notamment de l'élu sud-étudiant, sud-solidaire étudiant, avec plusieurs centaines de signatures, je crois, quand même, voilà, sur justement la dégradation des conditions d'études, notamment chez les licences 1, sur l'augmentation des effectifs en TD, sur la dégradation du matériel en amphi, notamment, voilà quoi, des amphis où il n'y a plus de store et où on ne peut plus regarder, tout ce sont, même avec un vidéoprojecteur, tout ce sont, on ne voit rien au tableau, enfin des trucs comme ça, quoi.
Très bien. Bon, on passe à plus gars. Joyeux encore.
Un petit mot sur l'état d'urgence.
Ah bah, vas-y.
Du coup,
on embraye sur les joies, hein, vas-y.
Puisque nous avons que des choses très réjouissantes dans cette émission, après la baisse budgétaire et les politiques d'austérité, voici venues les politiques sécuritaires, qui, si elles touchent tout le pays, touchent également les universités et les étudiants et les personnels. Donc voilà, c'est le cas à Lille 2, puisque depuis, mais ça fait déjà un bon moment, là, il n'y a plus qu'une seule entrée.
Ah, il n'y a plus qu'une seule entrée, et même maintenant, je vais venir, il n'y a plus qu'une seule porte. Enfin, il y a deux portes sur trois qui s'ouvrent seulement. Et moi, il m'est arrivé une fois, j'arrive pour. Je suis doctorant, donc pour donner un TD, et on nous rangeait par fil, les étudiants d'un côté, les personnels de l'autre. On devait fouiller nos sacs, montrer nos pièces d'identité et nos cartes étudiantes. C'était réjouissant. À 8h du matin, vous vous réveillez, vous avez ça. Vous êtes de bonne humeur après.
Étudiez, vous êtes fouillé.
Voilà.
Travaillez, vous n'êtes pas encore fouillé.
Ah bah si, là, si les personnels étaient fouillés. Ah, si, je te rassure. Il y avait des fouilles des sacs des personnels. Parce que du coup, j'étais dans cette file-là. Et on nous met des petites affichettes partout, comme quoi on peut se faire contrôler à l'entrée, donc carte étudiante, comme quoi on peut se faire fouiller, des palpations de sécurité, comme ils appellent. Hein, voilà, donc.
Moi, je voulais parler des dernières petites affichettes que j'ai vues fleurir à Lille 1 et qui, d'après mes informations, ont fleuri un petit peu partout dans l'administration. C'est comment se protéger face à une attaque terroriste. Mm-hmm. Donc, je demande à l'administration de m'écouter sérieusement. Nous avons des revendications. Donc, face à une attaque terroriste, il convient de se barricader dans une pièce, de se barricader au mieux. Donc, et il est conseillé d'utiliser un canapé pour bloquer la porte. Je demande à l'administration solennellement que soit mis à disposition de l'ensemble des personnels de cette université, dans chaque pièce, un canapé afin de barricader la porte.
Y compris dans les salles de cours. Hein.
Ah oui, mais ça, les enseignants qui ramènent tout.
Et les amphis.
Et les amphis. Quelques petits canapés au fond, là.
Donc, réclamons un canapé par porte dans l'université. Afin d'être à l'abri, protégé, si possible un canapé avec un dos. Alors, il faut que ce soit confort, mais quand même, il faut que ce soit renforcé, parce que la balle de Kalachnikov qui s'arrête à la deuxième épaisseur du coussin, j'ai un doute. Mais voilà, pour cette revendication.
Le Kevlar, c'est confortable, parce que les canapés en Kevlar, c'est pas bien.
Oui.
Donc voilà, donc ça c'était pour l'état d'urgence à l'université. Je sais pas s'il y a d'autres mots à ajouter. Il y a pas que l'île 2 où ils ont fermé les portes. Il y a à l'IEP aussi.
À l'IEP aussi, ils ont fermé les portes, mais
ils avaient déjà fermé les amphis là-bas.
Non, après les amphis qui s'effondraient.
Après les amphis qui s'écroulent, les portes qui se ferment. Oui, oui, ils ont encore fermé la porte. Elle avait déjà été fermée au début de l'année après les attentats à Charlie Hebdo. Donc voilà, maintenant tout le monde passe à nouveau par la petite porte et est protégé par le digicode à 4 chiffres qui doit permettre à tout bon terroriste
d'être foulé
à 5 chiffres.
5 ouais. chiffres que tout le monde connaît d'ailleurs, qui ne peut plus être changé. Je crois qu'ils n'arrivent plus à le changer parce qu'il était déjà très connu quand moi j'y suis arrivé il y a 6-7 ans. Ah. Donc voilà, donc, et il n'a toujours pas changé, mais moi je m'en souviens.
Il faut mettre un peu d'huile peut-être.
Il y a même un groupe Facebook, je crois, avec le nom du code.
Sinon, le code a longtemps été affiché, en tout cas dans le hall à l'intérieur. Donc une fois rentré, tout le monde là et tout le monde peut re-rentrer.
On est à l'abri.
On est à l'abri, enfermé dans nos universités, avec nos canapés derrière nos portes, et avec dans les facultés les personnels de sécurité qui sont aussi de plus en plus nombreux.
Ah bah, aussi. Oui, et puis et qui sont pas forcément des personnels de l'université. Parce que ici, par exemple, à Lille-Lin, c'est une société privée à qui on sous-traite la sécurité sur le campus.
Oui.
Ce qui pose pas mal de problèmes, puisque ce qui pose des problèmes évidemment évidents de contrats et de conditions de travail de ces personnels, mais ce qui pose des problèmes aussi de ce que l'université peut exiger d'eux, peut ne pas exiger d'eux. La dernière fois, on a eu un problème à la maison des étudiants. Il y avait une soirée qui devait se terminer à 2h du matin. À minuit 45, ils ont décidé de déclencher l'alarme et impossible de les joindre. Donc on a dû tout ranger sous alarme, enfin sous le son strident de l'alarme, hein, en catastrophe. Et ils sont venus après nous dire que ils n'avaient pas la même information que nous, que notre soirée devait se terminer à 1h et que minuit 45, bah, c'était pour qu'on sorte, quoi, l'alarme. Hein,
super.
Et donc voilà, il y a une plainte envoyée au vice-président vie étudiant, hein, mais comme c'est une société privée, on doute sur l'efficacité. Alors c'est pas une soirée de solidarité étudiant, c'est une autre association. D à la carte pour ne pas la nommer. Donc voilà.
Non, puis l'état d'urgence qui est inquiétant de manière générale pour tous les militants et syndicats de manière politique, puisque on interdit les manifestations et les mobilisations, les rassemblements les unes après les autres partout. Et donc là, déjà que le mouvement social avait un peu du mal à se lancer et que la contestation de la plupart des réformes et de la politique économique était un peu difficile à monter. Si en plus on a le droit de contester, mais pas trop fort, en chuchotant, sans aller trop loin et pas par des rassemblements de plus de 3 personnes, ça va commencer à être compliqué.
Effectivement, j'ai entendu Manuel Valls il y a 2-3 jours qui m'expliquait à moi dans mon salon que le souci des Français, c'est le terrorisme et l'islamisme radical. Mais le souci des Français, c'est pas visiblement c'était pas la hausse du SMIC, hein. Visiblement c'était pas les paradis fiscaux pour lesquels ils ont refusé un amendement de l'Assemblée nationale lâchement, encore une fois. Enfin voilà, le souci des Français, c'est juste ça. On sait bien ce qui s'est passé, on sait bien l'horreur que ça a été, mais on peut pas accepter de tout réduire à ça aujourd'hui dans ce pays, quoi.
Ah ben d'ailleurs, en réduisant tout à l'islam, c'est ce qu'on disait, c'est ce qui avait été dit la semaine dernière, en réduisant tout à ces thématiques-là, on s'étonne après de la montée du Front National.
Surprise.
Surprise, voilà. Mais la République est sauve, hein. Xavier Bertrand a pris la région. Mm-hmm. L'IDEX est sauf d'ailleurs, parce que beaucoup de gens s'inquiétaient sur le fait qu'on allait perdre l'IDEX si le FN gagnait. Mais du coup, bah, voilà, tout est voilà. Bien finalement.
On gagne tous, c'est du 2 en 1, c'est sécurité et compétitivité. Tout voilà. Est gagné avec une petite dose d'austérité.
Voilà, on vous fait un sachet, monsieur. Vous voulez un paquet avec ça pour les fêtes?
Un bon petit cocktail.
Je vais vous proposer d'écouter Les Blaireaux, parce que ça fait juste longtemps que je ne les ai pas écoutés, en fait.
Alors,
et Les Blaireaux, rien à voir avec Xavier Bertrand.
Ah, d'accord. Okay. D'accord.
Voilà, Les Blaireaux, Petit Chef. Thank you.
Avez-vous déjà écouté le son des pas? Que fait petit chef quand il arrive le matin? Encore un peu, on croirait entendre Attila écrasant la moquette sous ses mocassins. En guise de bouclier, une serviette en cuir, le menton à l'attaque, l'œil vif, le front bien haut. Petit chef embrasse du regard son empire, conquis après 20 ans de gaguerre de bureau.
Quand ça ne rentre que d'un soir,
si ça vous chante,
pour m'enfendre les grands patrons.
En attendant, je bosse à la chaîne, à l'abattoir, je découpe des tripes,
oui, des tripes.
Je découpe des tripes,
oui, des tripes.
Je découpe des tripes de chez Fayon. À la revue d'effectifs, petit chef divise pour les uns la carotte et pour moi le bâton. Manager d'homme au service d'une seule entreprise, restez le fils de papa, du papa patron. Aujourd'hui petit chef Freddy devant la stagiaire,
vous passerez me voir à 14h sous mon bureau. Mais non mademoiselle, je dis ça c'est pour détendre l'atmosphère.
Petit chef a fait l'école du rire, un sucre de coupe.
Quand ça ne rentre que d'un soir,
si ça vous chante,
t'en penses pas les grands patrons.
En attendant, quand sonne la cloche du réfectoire, je commande des tripes,
oui, des tripes.
Je commande des tripes,
oui, des tripes.
Je commande des tripes de chez Fayon. Les jours où petit chef sait pas trop quoi faire, il s'improvise inspecteur des travaux finis. Enquête, déniche, punis les secrétaires qui prennent leur jour de RTT le vendredi. Quand toutes ces femmes consentent à lui faire la courbette, petit chef en sueur reflaque sa mèche sur le côté. Rêve du grand soir où il mènera à la braguette les insoumises qui osent encore lui résister.
Quand ça ne rentre que du grand soir,
si ça vous chante,
on va demander les grands patrons.
En attendant, quand je claque ma paye à l'assommoir, je me fais des tripes,
oui, des tripes.
Je me fais des tripes,
oui, des tripes.
Je me fais des tripes de chez Fayon. Moi qui croyais naïvement que les enfants d'Eichmann ne se recrutaient que chez les mâles petits blancs, je m'aperçois depuis l'avènement de la superwoman qu'à l'école des femmes, le petit chef est bien vivant. Si comme moi la nuit, vous rêvez de vengeance, de cheftaine et de chefton rampant à vos pieds, de bisuteurs se balançant sous une potence, rejoignez l'union des étripeurs confédérés. Ce matin, sonnez pour moi l'heure du grand soir. J'ai eu les tripes de cigouiller, monsieur Fayon. La prochaine fois que vous mangerez du boudin noir, il aura peut-être un avant-goût, il aura peut-être un avant-goût, il aura peut-être un avant-goût de révolution.
Révolution!
Et de retour derrière la vitrine, l'émission intersyndicale des syndicats d'étudiants et de personnel de Lille 1 et de l'Université de Lille plus largement sur Radio Campus 106.6 sur la FM et partout dans le monde sur radiocampus.com.
Campus Lille.com.
Merci Tristan. Alors, c'est encore la fête, c'est toujours la fête, vous êtes toujours derrière la vitrine, et là, on continue de rigoler avec la baisse des APL pour les étudiants. Et qu'est-ce qui se passe encore, s'il vous plaît? Je vais sortir vanné de cette émission.
Eh bien, puisqu'il n'y a toujours pas assez d'argent dans les caisses de l'État et que c'est difficile pour nos braves dirigeants de réussir à faire des budgets à l'équilibre.
Bah, il faut lutter contre les islamistes radicaux, c'est pour ça.
On se dit que ceux qui ont encore le plus d'argent et qui peuvent encore nous en donner un peu, ce sont les étudiants. Et donc, voilà l'idée de supprimer une partie, ou de baisser une partie des aides personnalisées au logement, ce qui devrait permettre d'économiser au gouvernement 225 millions d'euros en 2016. Imaginez cette...
Ça fait bien 2 km d'autoroute, ça. Mmh,
mmh. Dites-moi. Ces sommes...
Ça fait quasiment 100 euros par étudiant. Ça fait 100 euros par étudiant, sachant qu'on ne touche pas tous les APL. Donc, ça va être une belle baisse. Hein. C'est un beau cadeau de Noël, en tout cas. Ah, mais c'est bien. En plus, je pense que le gouvernement est bon stratège, hein, annoncer ça en décembre, en pleine période d'examen. C'est... Voilà.
Exactement. Oui, un petit mot aussi pour... j'ai oublié d'en parler tout à l'heure sur la sécurité, tout ça, et justement avec les examens. Je sens qu'on va s'amuser en janvier, au moment des partiels, pour vérifier. Il est prévu de vérifier les sacs de chaque étudiant qui va rentrer donc ici à la Alvalin. Donc prévoyez d'arriver tôt. Si vous voulez commencer à l'heure, en fait, parce que sinon, ça va être très très compliqué pour vous.
Ouais, c'est ce qu'ils mettent en place déjà sur un certain nombre de facs. Je sais que ça arrive progressivement à Lille, mais à Paris, c'est déjà très très présent dans beaucoup beaucoup d'universités. On fouille absolument tout le monde à l'entrée. Et il y a des queues devant les universités pour pouvoir aller... pour pouvoir aller étudier, donc effectivement...
Comme quoi, les gens veulent aller étudier, et ça, c'est bien, c'est une bonne chose.
Évidemment que les gens veulent aller étudier. Ouais. Non, le problème, c'est les conditions d'études, hein, voilà. Quand même.
Non, mais un jour, on nous expliquera que, à cause de ces... grâce à ces fouilles, les gens ne vont plus étudier, et que, du coup, ça permet d'embaucher moins de personnel, c'est magnifique, hein. Faut voir le cynisme, des fois, de nos dirigeants, hein.
Eh oui. Une nouvelle petite chanson.
Allez,
Mademoiselle Bulle, les ogres de Barbac.
Et Trio d'ailleurs.
Exactement.
Mademoiselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mademoiselle Bulle. Comme un funambule qui rêverait de s'envoler à l'envol d'un ballon, Bulle s'est accrochée. Championne de l'aviation,
Bulle commence à s'élever.
Au-dessus des arbres, un alpiniste anglais lui indique le haut de la montagne.
Mademoiselle n'est pas rassurée.
Elle se demande où le ballon se dirige.
Mademoiselle, tout en haut, avez-vous le vertige?
Mademoiselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mademoiselle Bulle,
comme un funambule qui rêverait de s'envoler.
Balayée par un vol d'hélicoptère,
c'est fou le nombre d'habitants qu'on peut croiser en l'air.
Guidée par les planeurs, le bourdon d'un ULM qui tire derrière lui un drapeau avec écrit
« Je t'aime ».
Dire bonjour aux avions, croiser des hôtesses de l'air.
Bonjour.
Des colombes, des pigeons battant des ailes à l'envers.
Mademoiselle Bulle traverse les nuages, enfile un pull, il fait froid au-dessus des orages. Mademoiselle Bulle, comme un ver luisant qui rêverait d'un feu follet.
Mademoiselle Bulle tourne la tête en arrière, elle aperçoit un point qui ressemble à la terre.
Faut faire vite, une bulle ça peut éclater.
Elle croise Spoutnik, le satellite qui lui a tout expliqué.
Mademoiselle Bulle n'est pas très noctambule, n'a pas prévu dans son pactage qu'il ferait noir dans les nuages.
Mademoiselle Bulle, comme un papillon de nuit vers l'étoile qui l'éblouit.
Au ciel étoilé, Bulle s'est accrochée. Et c'est dans la Voie lactée que Mamselle décida d'habiter.
Ainsi dans le ciel, depuis des millions d'années, Madame la Terre observe cette bulle illuminée.
Chaque soir, quand la nuit vient à tomber,
Mamselle Bulle surveille jusqu'à ce que le soleil l'interpelle.
Mamselle Bulle.
Oh la lune, hey, la lune, c'est le soleil qui te parle. Oh,
Mamselle Bulle.
Sur la place, faut que je lève le jour.
Comme un funambule qui rêverait de s'envoler.
Mademoiselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal.
Mademoiselle Bulle,
qu'est-ce que tu fais?
Comme un funambule qui rêverait de s'envoler.
Mademoiselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal.
Mademoiselle Bulle,
comme un funambule qui rêverait de s'envoler. Mamselle Bulle.
Donc, vous êtes toujours sur Radio Campus dans l'émission Derrière la vitrine au 106.6. Donc, nous parlions des APL et des mesures de restriction sur ces APL. Alors, ce qui s'y passe un peu plus concrètement, c'est que les APL maintenant ne seront plus modulées en fonction de l'éloignement du foyer d'origine et le lieu d'études et des ressources des parents, sauf pour les enfants de parents qui payent l'impôt sur la fortune, qui eux n'y auront pas droit. Mais pour les autres, et notamment pour les moins favorisés ou pour ceux dont la famille habite loin, eh bien les aides ne seront plus modulées. Donc c'est eux qui vont en pâtir en premier, puisqu'ils n'auront plus besoin, ils n'auront plus le droit d'être un peu plus importantes pour pouvoir payer leur logement, tout en sachant qu'aujourd'hui c'est 7 étudiants sur 10 qui ont des difficultés pour se loger en France. On estime environ à 200 000 étudiants le nombre d'étudiants qui vont être touchés par ces mesures.
Donc c'est bientôt fini, enfin c'est presque fini derrière la vitrine. Donc on se retrouve
à la rentrée.
Après les vacances, après 2 semaines de pause bien méritées et promis sans mauvaises nouvelles, on espère. Et donc l'émission est toujours à la rentrée 14h-15h le jeudi, on reprend le rythme et l'émission peut être écoutée en podcast sur campusstyle.com et elle est aussi mise en ligne sur YouTube. Juste après, on vous laisse avec Classique sans complexe et avec Un truc qui claque là à 16h qui sera en direct.
Un truc là qui claque
qui sera en direct à 16h du Biplan. Voilà.
Bonne semaine à tous.
Bonne semaine à
bonnes
tous.
Vacances.
Bonne semaine. Bonne fête et tout ça.